Ne bougez pas, s'il vous plaît. On se reparle dans quelques instants. Et c'est le moment pour moi, chers amis, de vous dire que Thomaï, Anissa Haddadi et toute l'équipe de Culture Média vous donnent rendez-vous de 10h à 11h30 sur Europe 1 tous les jours. Toute l'actualité culturelle et médiatique avec ceux qui la font, c'est le cœur de leur émission. Leurs invités demain, Élodie Frégé et Jean-Pierre Daroussin, à l'affiche de la fiction Meurtre à Millau sur France 3. Culture Média, c'est de 10h à 11h30 tous les jours sur Europe 1. Europe 1, la radio libre. Et il est 23h au carillon d'Europe 1. On retrouve Maëlle Hassani pour les informations. Bonsoir Maëlle.
Bonsoir Valérie, bonsoir à tous. 49.3 ou ordonnance, ce sont les deux seules options pour faire adopter le budget. La ministre des Comptes publics le reconnaît ce soir devant les députés. Aucun vote ne sera possible à l'Assemblée en raison du sabotage continu de la France insoumise et du Rassemblement national, écrit ce soir Matignon. Des propositions seront faites demain par le Premier ministre pour aboutir à un compromis avec les autres forces politiques afin d'éviter la censure. Malgré ce passage en force annoncé. Hors de question de céder le Groenland aux États-Unis. Déclaration ce soir du ministre danois des Affaires étrangères, alors que Donald Trump assume toujours sa volonté de s'emparer de ce territoire stratégique. Une mission militaire européenne de dissuasion est sur place depuis ce matin, composée de soldats français, allemands, suédois, mais aussi britanniques et néerlandais. Ce déploiement n'a aucun impact sur l'objectif du président américain, assure ce soir la Maison-Blanche. Dans le dossier iranien, toutes les options restent sur la table pour mettre fin à la répression sanglante des manifestations contre le régime des Mollahs. C'est ce qu'indique la porte-parole de la Maison-Blanche. Mais la possibilité d'une intervention militaire américaine semble s'éloigner. Les pays du Golfe et le Premier ministre israélien se sont entretenus avec Donald Trump ces dernières heures pour le dissuader de passer à l'action. L'Iran toujours coupé du monde, le blocage d'Internet dure depuis une semaine dans le pays. Une décision du régime pour empêcher la diffusion d'images de massacres de manifestants. 800 exécutions prévues initialement hier ont finalement été annulées sous la pression des États-Unis. Le bilan humain de cette révolte, entamée fin décembre, pourrait s'élever à plusieurs dizaines de milliers de morts, selon les estimations de plusieurs ONG. Face au grand bouleversement du monde, la France doit consentir à des efforts à la mesure de notre rude époque. Déclaration d'Emmanuel Macron lors des vœux aux armées tout à l'heure. Le président de la République appelle à voter une rallonge budgétaire de 36 milliards d'euros d'ici 2030 pour accélérer le réarmement du pays. Un supplément de 3,5 milliards est déjà prévu dans le projet de loi de finances cette année. Le député insoumis David Guiraud, relaxé des accusations d'injures publiques à caractère antisémite formulées à son encontre par l'ancien député apparenté LR Meir Habib. Au cours d'une altercation entre les deux hommes dans l'enceinte de l'Assemblée nationale en 2024, l'élu LFI avait traité son collègue de porc devant les caméras de télévision. Des faits qui ne constituent pas une infraction, indique le tribunal. Meir Habib va faire appel. Reconquête compte bien jouer pleinement son rôle de défenseur de l'union des droites lors des élections municipales de mars prochain. Éric Zemmour assure ce soir que son parti proposera la fusion au second tour aux autres listes de droite, y compris dans les villes où ses candidats arriveraient en tête. Le quatrième homme de la dernière présidentielle fait le pari que le RN refusera cette main tendue, mais il garde espoir concernant les Républicains. Et puis une entrée en lice réussie à l'Euro pour l'équipe de France masculine de handball. Les Bleus dominent largement la République tchèque ce soir à Oslo, 42 à 28 score final. Prochain match samedi face à l'Ukraine. Vous écoutez Europe 1, il est 23h03 et c'est la suite de la Libre Antenne avec Valérie Darmon.
Merci Maëlle Hassani. Prochain rendez-vous avec l'information à minuit.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1, la Libre Antenne. Valérie Darmon.
Merci à vous, chers auditeurs, d'être à l'écoute de la Libre Antenne sur Europe 1. N'hésitez pas à nous appeler au 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21, numéro de notre standard non surtaxé. Vous pouvez nous laisser des SMS au 7 39 21, 75 centimes plus coût du SMS, 7 39 21 précédé du mot nuit. Et puis vous pouvez nous écrire à libreantenne@europe1.fr. Olympe, je vous retrouve. On était en train d'évoquer votre parcours. Vous avez 19 ans, vous avez été atteinte d'anorexie pendant combien de temps ? 2 ans, c'est ça, à peu près ?
Entre 3 ans, oui.
3 ans en tout, voilà. Et vous étiez en train de nous expliquer, donc votre vie a été en danger à plusieurs reprises, le pronostic vital était engagé, et puis à un moment donné, vos parents vont voir un spectacle pour juste un tout petit peu se changer les idées, parce que c'est extrêmement douloureux à vivre, évidemment. Ils vont au spectacle d'Arnaud Demanche. Arnaud Demanche qui a été anorexique également. Vous avez toujours rêvé d'être humoriste, de monter sur scène. Vous le contactez, il vous répond, il vous propose de faire les premières parties de ses spectacles. Vous, à ce moment-là, vous êtes dans une clinique spécialisée pour les malades d'anorexie. Et coupé du monde, parce qu'on vous supprime le téléphone et les contacts à l'extérieur pendant un certain temps. Et là, alors, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, est-ce que, alors vous vous prépariez à mourir?
Oui, moi j'étais prête à mourir, mais j'ai très vite compris que, moi j'ai vécu mes 15 premiers jours dans cette clinique vraiment comme l'enfer, parce que j'avais plus rien, j'avais plus mes proches, je ne voulais pas manger, donc je ne mangeais pas. C'était vraiment très compliqué, j'avais la sonde encore à ce moment-là. Donc c'était vraiment difficile. J'ai compris que je n'allais jamais pouvoir sortir si de toute façon les choses n'allaient pas avancer. Donc soit je meurs maintenant, soit il faut que les choses changent vraiment. Et bizarrement, même si la proposition d'Arnaud Demanche de première partie, je n'y croyais pas beaucoup, c'était quand même resté un petit peu dans ma tête. Et comme j'avais plus rien et je ne pouvais plus rien faire de mes journées, j'avais juste un carnet à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé à écrire des blagues sur tout ce qui se passait dans cette clinique, tout ce que je voyais avec les autres patientes, les médecins, moi-même, ce que je vivais. Et j'écrivais des blagues. Voilà, je faisais des blagues comme ça sur le carnet. Je ne savais pas trop pourquoi, en vrai, mais avec le recul, je pense que, voilà, au fond, j'espérais quand même pouvoir monter sur scène. Et que
oui, c'était la lumière dans la lucarne, en fait. Hein. C'était la petite lucarne d'espoir, oui, malgré tout.
Oui, c'est ça. Donc j'ai fait ça toute mon hospitalisation et j'ai récupéré donc mon téléphone mi-novembre. Et lorsque j'ai rallumé mon téléphone, directement en fait j'ai vu que ce fameux Arnaud Demanche avait pris de mes nouvelles. Donc moi j'étais très touchée parce que je me suis dit bon bah il m'a pas oublié. Il avait aussi il s'était présenté aussi à mes parents en expliquant qu'il m'avait proposé ce défi, etc. Et donc il m'a demandé si j'allais mieux. Et est-ce que j'avais écrit des blagues? Et donc, j'ai répondu que j'avais repris non pas 3 kilos, mais 5 kilos, que j'avais donc mieux. Mm-hmm. J'avais aussi fait du chemin dans ma tête. Alors, à ce moment-là, j'avais repris, quand j'ai repris ce poids-là, je l'ai repris parce qu'encore une fois, j'avais la sonde. Et je voulais, du coup, une fois que j'ai compris que peut-être il y avait une opportunité de monter sur scène, je l'ai quand même saisie. Donc, à chaque fois que je mangeais, ça a été vraiment mon moteur. Et je me disais, je veux monter sur scène. Et ça a été ma motivation, toute mon hospitalisation à chaque repas.
En fait, vous vouliez réaliser votre rêve, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Au moins réaliser votre rêve.
Voilà, c'est ça. Vraiment, je voulais juste vivre mon rêve le temps d'une soirée. Et donc, j'ai repris ce poids et je lui ai dit, j'ai écrit des blagues, bah, si tu veux, je te les envoie. Et je lui ai envoyé. Et en fait, ça a été un petit peu la surprise parce qu'il m'a répondu, bah, en fait, c'est drôle. Alors, non pas qu'il pensait certainement que ça n'allait pas être drôle, mais il savait pas, enfin, là, il ne me connaît pas, je sais pas du tout mon métier, j'ai 17 ans, je suis très jeune. Voilà, c'était un risque un petit peu de me proposer cette première partie. Et il a dit, oui, je suis étonnée parce que c'est vraiment drôle. Et donc, il a avec lui le côté professionnel, il a corrigé certaines petites choses, mais il m'a vraiment laissé dire ce que je voulais dire et comment je voulais le dire, parce que moi, j'avais vraiment écrit que sur l'anorexie.
Oui.
Et donc, je lui dis, bah, normalement, j'espère pouvoir sortir fin décembre. Et la première partie, c'était le 17 janvier. Et je lui ai dit, voilà, j'espère que je vais pouvoir venir et monter sur scène le 17 janvier. Et il m'a dit, bah, moi, en tout cas, pour moi, c'est toujours bon. Donc, j'étais très contente et j'ai eu la chance de pouvoir sortir de la clinique juste avant Noël parce que j'allais mieux, parce que j'avais repris du poids. Et là, vous
pesiez combien, Olympe, à ce moment-là?
Je pesais tout juste 30 kilos. Donc, d'accord, encore très faible.
Oui.
Mais forcément, par rapport à 24, j'en avais quand même repris un petit peu. Donc je suis sortie. Et ça a été très étrange parce que, en fait, il s'est passé vraiment que 3 semaines entre ma sortie et la montée sur scène. Et j'ai été enfermée vraiment pendant 4 mois. J'ai vu personne pratiquement. À la fin, j'ai eu quelques visites de ma maman, mais ça a été vraiment très, très peu. Et donc, ça a été vraiment, je suis passée d'un enfermement à d'un coup, oula, je vais monter sur scène. Ça avait été un peu médiatisé par les réseaux parce que moi, donc, j'avais, donc, les réseaux, j'en avais parlé. Et en plus, Arnaud, lui, en avait aussi parlé, avait expliqué qu'il y allait avoir une première partie avec une histoire un petit peu particulière. Donc, les gens savaient. Donc, c'est vrai que j'étais un petit peu stressée. Et en même temps, voilà, c'était très compliqué parce que j'avais vraiment très peur déjà des gens de base. Même ma famille, j'avais plus l'habitude de vivre avec des gens. Donc j'avais un peu peur de monter, il y avait 600 personnes.
Voilà, c'est ça, là il y avait des centaines de personnes.
Oui, il y avait 600 personnes.
C'était quelle salle, Olympe?
J'étais à Châteaugiron, le Zéphyr, à Châteaugiron, donc en Bretagne. Mmh. Et donc, c'est vrai que c'était très impressionnant. Et moi, j'y suis allée, je suis fan de mode. Donc, j'avais mis des talons de 10 cm, une tenue à paillettes, etc. J'avais appris mon texte, je m'étais entraînée pendant 15 jours non-stop, etc., à faire mon texte. Et en fait, je suis arrivée sur place le 17 et je me suis dit, mais en fait, t'es un peu folle parce que t'es quand même pas très bien encore. Et là, tu après, t'as monté sur scène, ça fait 4 mois que t'as parlé à personne. Tu vas faire des blagues, mais est-ce que les gens vont rigoler? Les gens ne te connaissent pas. Et tu ne connais même pas Arnaud, finalement, parce que je l'avais jamais rencontré. Mm-hmm. Donc j'avais très peur, mais j'ai vraiment pas réfléchi. Et donc, j'ai rencontré Arnaud, et ça s'est très bien passé. Il m'a un petit peu rassurée avant de monter sur scène. Il m'a dit, voilà, les gens sont au courant que tu viens, ça va bien se passer, t'inquiète pas, tes blagues, elles sont drôles. Et en plus, normalement, une première partie, c'est 5 à 10 minutes, pas plus. Moi, j'avais écrit 25 minutes.
Wow.
Il m'a donné l'opportunité.
De jouer les 25 minutes.
Voilà, il m'a laissé jouer 20 minutes, ce qui est très courageux hein, pour un humoriste qui nageait.
Alors, lui, c'était courageux, mais vous aussi. Vous êtes une drôle de bonne femme d'1m50 quand même.
Oui, je ne savais pas si j'allais tenir.
Ah oui.
Pour être franche, je ne savais pas du tout. J'ai fait 25 minutes. J'ai tenu, je n'ai même pas eu de trous de mémoire, etc. J'étais très contente parce que j'avais très peur d'avoir des trous de mémoire. Et ça s'est super bien passé et les gens ont rigolé en fait. Les gens ont rigolé et moi sur scène, je me suis sentie très très bien. Et dès que j'ai mis mon escarpin sur la scène, j'ai dit, et que j'avais le micro entre les mains, moi j'avais besoin de parler hein, depuis toujours, depuis toute petite. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire, il faut que je fasse ça dans ma vie, c'est ça que j'aime. Les gens m'écoutent, les gens rigolent, j'affiche
des jouets. Et puis vous êtes vue, vous qui vouliez disparaître, là vous êtes vue, vous êtes reconnue. Et oui.
J'étais vue, en plus je brillais parce que les régisseurs avaient fait un super beau fond derrière, etc. Donc vraiment, je suis très contente, c'était vraiment magique, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Et à la fin, les gens m'ont fait une standing ovation, donc j'étais très très heureuse. Ça a été un moment très émouvant pour moi parce que je voyais les gens, ils avaient rigolé, mais ils connaissaient aussi l'histoire et je voyais que certaines personnes qui pleuraient, il y avait des personnes qui venaient de loin, de ma famille.
Vous avez touché les cœurs parce que vous racontez votre histoire.
C'est ça. Et là, j'ai donc compris que c'était ça que je voulais, c'était ça dont j'avais besoin aussi. Et Arnaud, voilà, j'étais très heureuse de l'avoir rencontré, de ce défi qu'il m'a donné aussi. C'était quelqu'un, voilà, c'était un inconnu de base.
Et ensuite, vous avez continué à faire les premières parties de ces tournées?
Alors, ce qui s'est passé justement, c'est que j'ai eu très peur après parce que je me suis dit, bon, j'ai fait ça, maintenant ça m'a tenu pendant 4 mois, qu'est-ce qui se passe? Je vais retourner à l'hôpital et ma vie s'arrête. Alors que j'ai adoré faire ça. Et en fait, il y avait un autre producteur dans la salle ce soir-là qui m'a beaucoup aimé aussi et qui m'a proposé directement de remonter sur scène dans son festival à lui 2 jours plus tard, sans Arnaud. Donc je me suis dit, bon, c'est plutôt cool. Donc je suis remontée sur scène directement 2 jours après, ce qui m'a rassurée. Et après, j'ai pu discuter avec Arnaud. Il m'a dit, écoute, moi, je t'ai vraiment trouvé bien sur scène. Ce que je te propose, c'est de faire 2 premières parties. Donc il m'en a fait faire une deuxième en février, une troisième. Et au fur et à mesure, comme j'ai progressé, puisque de base, comme je l'ai dit, je n'ai aucun métier.
Aucune formation, bien sûr.
C'est ça. Il a vu que je m'améliorais au fur et à mesure, que j'écoutais les conseils, que je pouvais aussi écrire autre que sur la maladie. Et donc, du coup, il m'a dit, viens faire toute ma tournée. Voilà.
Wow.
Donc, il m'a amené sur toute sa tournée. Je suis partie pratiquement toutes les semaines dans des villes différentes. J'ai eu énormément de chance. Je suis très reconnaissante. J'ai adoré faire ça.
Et à ce moment-là, Olympe, vous regrossissez au fil du temps?
Oui. Oui. En fait, Arnaud m'a fait... c'est simple. La scène, c'est très énergivore. Si tu ne reprends pas de poids, tu ne fais pas les premières parties. Donc, ça a été un peu 1 kilo, une première partie, 1 kilo, une première partie. Alors, forcément, j'ai fait beaucoup de premières parties. J'en ai fait 16, je crois, donc je n'ai pas pris 16 kilos. Mais j'ai quand même repris du poids au fur et à mesure. Et puis, j'ai réappris à vivre aussi. Parce que forcément, et puis, ce n'est pas le milieu le plus simple parce que la tournée, on ne mange pas à des horaires fixes, on mange avec des gens, on mange beaucoup au restaurant. C'est très compliqué. J'avais beaucoup de tocs, moi. Donc, j'ai dû casser tous les tocs que j'avais, en fait, au fur et à mesure.
Et finalement, Olympe, toute seule, sans thérapie en parallèle.
Oui, j'ai arrêté la thérapie parce que, comme je dis, j'avais plus suivi parce que le fait d'être médiatique et en plus d'être sur scène, ça n'a vraiment pas plu. Donc, moi, j'ai même pas eu un suivi après. Donc, du coup, ça a été très compliqué. J'aurais pu vraiment rechuter.
Ah ouais, parce qu'arrêter les tocs toute seule, c'est quand même compliqué.
J'ai appris. En fait, je me suis dit, j'ai la chance de pouvoir dîner avec des personnes importantes, de rencontrer des gens extraordinaires. si tu arrives dans un resto, en fait, ne fais pas la difficile à dire « Non, mais moi, je suis un anorexique, je ne veux pas manger. » Alors, bien évidemment, je ne dis pas ça en dénigrant les autres, mais juste, moi, c'était comme ça que je m'obligeais à passer au-dessus et je ne voulais pas te déranger. Et en fait, au fur et à mesure, mon cerveau s'est habitué.
C'est reconditionné, c'est reconditionné. C'est ça.
Et j'ai oublié, en fait, les tocs que j'avais. Je n'ai plus jamais eu de tocs, maintenant, depuis un an. Et donc, j'ai fait toute la tournée jusqu'à jouer à La Cigale à Paris. Voilà, bon, j'ai travaillé à Lyon, donc c'est des salles qui sont mythiques. Et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que Arnaud m'a dit, voilà, je sais que toi, tu veux en faire ton métier. Je pense que tu as le potentiel. Je sais aussi que là, tu ne sais pas trop ce que tu vas faire, du coup. Et que ça te motive, surtout, et que tu vas mieux. Moi, je te propose de devenir ton producteur et de produire ton premier spectacle. Et là, moi, j'ai dit tout de suite, bah oui, forcément. Donc, actuellement, on a écrit, j'ai écrit un spectacle. Donc, surtout, je voulais vraiment pas parler que de l'anorexie parce que je veux pas m'enfermer dans cette maladie. Je veux pas qu'on me reconnaisse en étant l'anorexique non plus. C'est important pour moi d'en parler. C'est un gros sujet dans ma vie, mais il y a plein de choses que j'ai envie de raconter.
Oui, puis c'est pas tout vous, surtout. C'est pas
ça,
tout vous.
C'est pas moi. Voilà. J'ai eu une vie avant et j'ai une vie après aussi, cette maladie. C'est important de le dire. Et c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup écrit. J'ai écrit vraiment tous les jours pendant des mois. Et aujourd'hui, je peux le dire, je joue mon premier spectacle le 13 juin 2026 à l'Apollo Théâtre à Paris. Ouais. Donc ça arrive bientôt. Ça arrive vite et j'en suis très très fière parce que comme je dis, je suis montée sur scène pour la première fois de ma vie à 18 ans, même pas, il y a un an, le 17 janvier. Et je me retrouve à finaliser l'écriture de mon premier spectacle que je vais jouer dans 6 mois. Donc je ne suis pas peu fière, j'ai fait un chemin vraiment pas très
13 juin 2026 à l'Apollo Théâtre, je le dis pour les auditeurs d'Europe 1. En tout cas, vous illustrez bien Olympe, le passage de l'ombre, parce que vous étiez dans des profondeurs abominables, à la lumière.
Hein. C'est ça, et c'est vraiment ça, et c'est pour ça que je voulais témoigner ce soir. C'est parce que là, je parle de mon parcours avec l'anorexie, etc. Mais c'est vraiment, je veux vraiment faire passer le message de, même quand c'est difficile, alors c'est très facile à dire comme ça, mais il y a toujours une lumière quelque part. Et même, je pense que forcément, le médical, c'est quelque chose d'important. Je ne crache pas dessus, j'en ai eu besoin. Ils m'ont beaucoup aidé aussi à un moment donné. Mais moi, ce qui m'a surtout sorti aujourd'hui de la maladie, c'est l'objectif que j'avais de monter sur scène, ma passion de la scène. Et aujourd'hui, voilà, c'est la scène. Mais pour certains, peut-être qu'il y a des passionnés de sport, de théâtre, de dessin, de danse, je ne sais pas. Mais il ne faut vraiment pas minimiser nos passions et tout mettre de côté parce que c'est aussi ça, parfois, qui nous fait avancer. Donc, c'est vraiment, je veux vraiment faire passer un message d'espoir aux jeunes, mais même aux personnes plus âgées, d'espoir et vraiment de se concentrer sur les choses qu'on compte bien.
Voilà, ne pas baisser les bras, c'est ça que vous voulez dire. Trouver de la créativité quelque part. D'ailleurs, l'art-thérapie fonctionne extrêmement bien. Hein. Voilà, donc c'est de la créativité qui peut nous mener quelque part. Bon, vous avez eu un très bel ange gardien.
Oui, j'ai eu un très bel ange gardien parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment aidée et qui m'a déjà aidée dans la maladie au quotidien, mais qui m'a aussi appris le métier et qui m'a soutenue. Aujourd'hui, je suis très proche et je suis très reconnaissante de l'avoir dans ma vie. Mais c'est vrai que voilà, il m'a donné les bases. Moi, j'aurais pu aussi me dire non et rester dans la maladie, dans mon confort de la maladie, parce que finalement, à force, on y est aussi très bien. Mais j'ai décidé d'aller de l'avant parce qu'au fond de moi, je pense que j'en avais un peu envie quand même. Je suis pas
En tout cas, il y avait encore une part de vivant et il y en a une jusqu'au dernier souffle, hein, de toutes les manières, qu'on le veuille ou non.
Et aujourd'hui, je peux le dire, je n'ai plus du tout envie de mourir, je n'ai plus du tout envie de retomber dans la maladie et je vais beaucoup mieux. Je suis très, très fière de pouvoir enfin annoncer le spectacle. Il y a mon affiche qui est sortie, etc. C'est un changement de vie qui est radical et j'en suis très, très heureuse.
Et la relation à l'alimentation, tout de même, est-ce qu'elle reste fragile ou pas du tout, là, à échéance d'une année Olympe ?
Alors, je ne peux pas vous dire que je suis guérie, parce que je pense que c'est aussi justement ça qui fait qu'on guérit un jour, c'est d'assumer que pour l'instant, on n'est pas guéri à 100%. C'est une maladie qui est très compliquée à guérir à 100%. Moi, j'y crois. Souvent, ça fait débat. Il y a des gens qui disent qu'on ne guérit jamais l'anorexie. Il y en a qui disent qu'on guérit. Moi, je pense qu'on guérit l'anorexie. Par contre, je pense que je ne remangerai plus jamais comme avant. Mais pour la simple raison que j'ai appris à manger déjà. C'est vrai qu'on ne se pose pas vraiment de questions hein, quand on mange comme tout le monde sans trop réfléchir. Mmh. Moi, j'ai vraiment appris avec des diététiciennes, des nutritionnistes à manger. Donc, je pense que je ne mangerai jamais comme avant. Aujourd'hui, parfois, j'ai encore du mal sur l'apparence. En plus, je fais un métier, du coup, maintenant d'image, ce n'est pas toujours simple. Oui. Mais,
et l'apprentissage, c'est aussi qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça fait partie
c'est
aussi
hein,
de.
Bien sûr, bien sûr.
Vous vous exposez, en fait, hein, c'est ça.
Je suis exposée. Hein. Ouais. Donc, forcément, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, il y a des gens qui vont être gentils et d'autres un peu plus méchants. Mais ça, on le sait, c'est le jeu, malheureusement. Mais voilà, l'alimentation en tant que telle, ça va très bien aujourd'hui. J'arrive à me nourrir, je reprends du poids. Ce serait de mentir que de dire que j'y pense pas. Des fois, je me dis, oh là là, j'ai un petit coup de panique pendant 10 minutes. Mais ça ne m'empêche pas de manger. Je continue à manger, je vais au restaurant, j'arrive à manger le dessert, je ne me prive pas. Vraiment, ça va bien. J'ai eu même le droit et l'autorisation de reprendre un petit peu le sport pour me muscler justement, pour être en forme et faire une heure de spectacle. Donc ça va beaucoup mieux. La seule point encore un petit peu noir, c'est en effet parfois, ça va encore m'arriver une à deux fois dans le mois de me regarder dans le miroir et de ne pas m'aimer. Mais ça ne touche pas mon alimentation, ça ne m'atteint pas sur ce que je mange.
C'est le principal. C'est le principal. Alors, on vous trouve où sur les réseaux sociaux, Olympe ?
Alors moi, je suis principalement sur Instagram, c'est Olympe Show. Et aussi sur TikTok, mais voilà, dans tous les cas, c'est Olympe Show partout. Donc, ce n'est pas très, très compliqué de me trouver.
Olympe Show. Et alors, à qui vous devez ce joli prénom d'Olympe ?
Eh bien, ça, c'est à ma maman. Hein. C'est elle qui a choisi mon prénom. Donc, c'est vrai que souvent, les gens se posent la question, on me demande beaucoup si c'est mon nom de scène ou mon prénom. C'est mon prénom, c'est mon vrai prénom. Et j'ai préféré le garder en effet pour mon spectacle.
Merci beaucoup, Olympe, d'avoir partagé votre parcours ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Vraiment, un grand merci de ce magnifique message d'espoir. Comme quoi. Même dans les pires moments, la vie vient s'inviter parfois, sous des formes improbables. Hein, parce que vous, c'était vraiment improbable que ça se produise comme ça.
C'était improbable, mais merci à vous de m'avoir écouté. J'espère avoir pu aider certaines personnes. Et aussi, j'aimerais passer un message de soutien aussi aux parents qui accompagnent leurs enfants ou même un proche, tout simplement, de cette maladie. Je suis là, je sais que ce n'est pas simple, mais il y a une porte de sortie promise.
Merci beaucoup Olympe, merci beaucoup. Prenez bien bien soin de vous et beau spectacle en juin, on va entendre reparler de vous. Rappelez-nous aussi dans la libre antenne d'Europe 1.
Très bien, ça
merci va. Olympe, au revoir.
Merci beaucoup, belle soirée. We'll be right back.
rosé. Il a sept mots. Elle marche parmi les détritus. On dirait comme sur les prospectus. Ses fils allongés à l'ombre des cactus. Tu vois ce que je veux dire et pourtant c'est juste.
C'est vraiment une super nana. Et c'est Michel Jonas, évidemment, qui chante ce soir dans votre émission. Bonsoir Elisabeth.
Bonsoir Valérie, bonsoir les auditeurs, bonsoir l'Europe.
Merci d'être avec nous. De quoi voulez-vous nous parler ?
C'est moi qui vous remercie tout d'abord Valérie. C'est un immense honneur que vous me faites. Vraiment, je suis très heureuse.
Bah écoutez, avec
d'abord,
grand plaisir.
D'abord, je voudrais éventuellement, si vous me le permettez, qu'on fasse quelques secondes de silence pour l'Iran et pour Daniel Balavoine et pour Coluche, qui sont morts il y a 40 ans. Voilà.
Alors, allons-y sur quelques secondes, mais pas plus, parce qu'on fait une émission de radio, donc on ne peut pas rester très longtemps dans le silence, Elisabeth. Je vous l'accorde, parce que vous savez combien nous aimons nos auditeurs d'Europe 1.
Merci.
Alors, je vous écoute.
Voilà. Donc, aujourd'hui,
oui.
De quoi allons-nous parler, Valérie ?
Mais je ne sais pas, vous allez me le dire.
Alors, je vous ai eu l'année dernière, en juin,
oui.
À l'époque, rappelez-vous peut-être, je ne sais pas.
Alors, je ne sais pas, vous savez, il y a beaucoup, beaucoup d'auditeurs,
oui,
et
monde,
beaucoup,
des, monde,
et beaucoup d'Elisabeth aussi qui
oui,
passent
donc,
sur l'antenne.
En juin, je vous avais eu. Là, aujourd'hui, je tiens à remercier le corps sanitaire français,
oui.
C'est-à-dire tous les CHU de France qui sont pourvoyeurs des plus belles intentions de la femme et de l'homme. Je tiens à remercier tous les médecins, les chercheurs, tous ceux qui œuvrent pour le bien-être des enfants et des jeunes adultes et des adultes en devenir et des seniors, bien sûr. Car moi, au mois de... Je suis très émue. Hein.
Oui.
Excusez-moi, Valérie.
Oui, oui. Prenez
car
le temps. On est entre nous. Vous savez, ça va bien se passer,
ouais,
Elisabeth.
Ouais,
vous connaissez l'émission.
Ouais. Donc, je tiens à remercier...
Les praticiens de santé, le personnel hospitalier.
Les praticiens. Ouais. En 2025, je tiens à remercier le corps
médical,
vasculaire, mmh. Et le corps gynécologique, car j'ai eu un débouchage de deux artères sur trois dans la jambe gauche et ensuite un cancer du col de l'utérus. Donc je suis toujours suivie en oncologie avec ma gynéco. Sur mon CHU.
Vous êtes dans le sud, Elisabeth, non ?
Je suis dans le sud, tout à fait,
oui.
Hein.
Vous êtes sur quelle ville ? Vous êtes dans quelle ville ?
Montpellier.
À Montpellier, d'accord. Il me semble me souvenir de vous. Vous avez un petit chien, non ?
Oui, j'ai deux. Maintenant, j'en ai deux.
C'est
j'en
ça.
Ai deux,
vous aviez appelé, je me souviens, et vous aviez proposé un logement. C'est vous qui avez proposé un logement à un auditeur d'Europe 1 qui
avait proposé un logement pour une dame
voilà.
Qui cherchait à se loger.
Exactement. Maintenant, je me souviens
et
de ça.
Elle n'avait pas rappelé.
Bon, bah,
et
ça,
donc,
après,
j'ai un chien maintenant. Oui, on va Si vous voulez, on s'aiguille sur les chiens.
Non, on va revenir à votre sujet, mais c'est parce que votre voix me dit quelque chose et Montpellier, plus votre voix me font me souvenir du fait que vous alliez promener vos chiens et que vous aviez appelé pour tendre la main.
J'en avais qu'une, maintenant j'en ai un deuxième, que j'ai pris à la SPA. Bon, ça c'est un détail, c'est une autre histoire.
Alors, revenons à votre santé.
Alors, ma santé, tout va bien, je me porte bien. J'ai un suivi, j'ai repris le sport, la gym douce dans mon village le vendredi matin, donc demain matin. Donc on va être d'attaque à 9h15. Oui. Je remercie aussi ma coach, d'ailleurs, Sandrine, qui m'a beaucoup aidée dans mon parcours depuis 3 ans que je fais cette gym douce. Et bon, là, depuis septembre, je n'avais pas repris parce que j'ai eu une petite période de déprime. Bien sûr, c'est normal, après 2 grosses opérations comme j'ai eu 3 fois sur le billard entre mai et juillet. Donc, normal, une petite période de déprime en septembre-octobre. Et voilà, et puis en novembre, moi, de mon anniversaire, je me suis relevée, tel un phénix. J'ai reconquis à nouveau l'espoir et la vie qui s'offrait à moi devant moi.
Et vous avez quel âge, Elisabeth ? Je ne me souviens pas de votre âge.
J'ai eu 64 le 16 novembre, Valérie.
D'accord.
61. Je suis un buffle en chinois.
Et vous êtes scorpion aussi, non ?
Oui, voilà, scorpion. Voilà. Donc, une vraie bête. adorable, mais très, très noire et très, mais adorable. Très sensible, très, 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 très facile, mais des fois, quand ça pique, elle peut piquer.
Et très profonde, les scorpions sont très profonds aussi. Ouais, voilà, ils vont chercher dans les sables mouvants le sens et leur quête. Pour mieux remonter à la surface aussi, puisqu'on est beaucoup dans l'ombre et la lumière ce soir. Voilà.
Tout à fait. Oui, je vous écoute.
Donc, la résurrection l'année dernière, le phénix.
Alors oui, donc en novembre, quand Montpellier s'est mis en fête avec les festivités pré-Noël, tout ça, toutes les festivités qu'il y a eu, donc je me suis reboostée, je me suis remise en marche et donc j'ai participé à pas mal de festivités sur la ville. Et puis en décembre, trou noir, le 16 novembre, donc anniversaire, ma fille vient avec sa fille pour la première fois à mon domicile, donc tout va bien. Une semaine après, je reçois un WhatsApp comme quoi il n'y aura pas de festivité à Noël, il n'y aura que dalle.
Comme quoi, vous n'alliez pas fêter Noël cette année ?
Non, je n'ai rien fait. J'ai pleuré je suis passée du rire aux larmes pendant 2 semaines, toute seule avec mes 2 chiens.
Mais comment se fait-il que votre fille ait décidé de ne pas fêter Noël avec vous alors que vous sortiez de la maladie ? C'est peut-être le moment justement de festoyer un peu plus.
Je n'ai pas du tout festoyé depuis 2 ans. Les deux derniers Noëls, ça a été des horreurs. Il y a Noël 24 et Noël 25, 2 semaines à pleurer.
Voilà. Mais il y avait déjà des antécédents avec votre fille sur des difficultés d'entente.
On était fusionnels. On a toujours été fusionnels. Et je sais pas, elle a fait une dépression postpartum lors de la naissance de sa fille en 23. Et ensuite, elle a repris le boulot trop rapidement, à mon avis. Elle a été surbookée, elle a trop travaillé. Et enfin, 24, pour le premier Noël de la petite, ça n'allait pas du tout. Elle a fait une dépression. Et d'après ce que j'ai entendu sur Europe 1, la dépression postpartum peut durer jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Donc,
elle s'est fait prendre en charge Elle a oui, vu oui, une psy
Elle a un psy depuis 2 ans, elle a une psy, mais je ne sais pas si cette psy l'a fait travailler dans le bon sens pour régler le problème que moi, je ne vois pas ma petite fille depuis le 16 novembre.
Elisabeth, vous lui avez demandé à votre fille, vous lui avez proposé une discussion tranquille, au calme.
Elle passe pas me voir depuis. Elle n'est pas passée me voir. Je l'ai pas vue depuis. Je l'ai pas vue. Ou alors que pour lui amener le bonnet pour son spectacle, le bonnet rouge et blanc de Père Noël, je lui ai amené à sa salle d'association là du village. Et merci, voilà. Mais elle ne s'arrête jamais alors qu'elle habite, elle travaille dans mon village et elle habite à 20 km du village et avec son mari et sa petite et elle ne s'arrête pas.
Vous pourriez lui proposer par message à défaut de la voir.
Je n'arrête pas de lui envoyer des beaux messages, mais elle m'a bloqué.
Elle vous a bloqué carrément?
Elle m'avait bloqué pendant un certain temps. Elle m'avait bloqué. Ça a été une horreur, je vous assure.
Mais elle vous a dit, elle vous a donné aucune explication. Du jour au lendemain, elle vous bloque.
Elle m'a dit, maman, tu prends des mesures. T'es en train de monter, maman, tu prends des mesures. Donc le surlendemain, qu'elle m'a dit ça, je suis allée voir mon médecin traitant et on a mis en place une mesure.
Attendez, tu prends des mesures, quel genre de mesures? De quoi elle parlait quand elle vous dit ça?
Tu prends des mesures, elle trouvait que j'étais en train de devenir up. Elle disait que j'étais en train de monter. Alors que j'avais vu ma petite fille le 16 novembre, et ça c'était le dimanche 16 novembre, et le samedi suivant.
Mais Elisabeth, attendez, il me manque un élément. Vous êtes bipolaire?
Oui.
Ah, vous ne nous l'aviez pas dit ce soir sur l'antenne d'Europe 1. C'est pour ça que je ne comprenais pas.
Je suis trouble de l'humeur. Trouble de l'humeur.
Ah, d'accord. Donc vous êtes traité?
Oui, j'ai un traitement, j'ai une injection et 3 sachets d'hépatine 500 chrono qui stabilisent l'humeur.
Voilà, donc que vous prenez depuis que vous êtes diagnostiqué. Vous avez été diagnostiqué il y a combien de temps?
Il y a 47 ans.
Voilà, donc elle vous connaît, votre
fille. À 16 ans et demi, mon imaginaire a fait que je me suis retrouvée en petite adolescence en cure de sommeil pendant 3 semaines. Dans une clinique autour de mon village. Et donc, on m'a mis d'abord sous lithium. Et après, j'ai trouvé que je prenais trop de poids. Tout ça, ça va arrêter mes règles, le lithium. Et ensuite, j'ai arrêté. Et après, ma sœur et mon beau-frère ont décrété qu'il fallait me mettre à l'hôpital. Voilà.
En tous les cas.
Et donc, depuis 80, j'ai été suivie par une femme, chef à l'époque. Et par une psychologue et par une musicothérapeute. D'ailleurs, c'est à ces personnes-là que je dédicace ma prestation de ce soir. Et ensuite, par une autre toubib qui me suit actuellement. Ça fait 22 ans que je suis suivie par elle aussi. Je dédicace à ces 4 femmes-là. Je dédicace ma santé actuelle,
vous leur devez. Mais pour en revenir à votre fille.
Je leur dois mon équilibre.
Voilà.
Je dois mon équilibre à ma musicothérapeute, à ma psychologue et à mes deux psychiatres.
Donc, Elisabeth, votre fille, elle vous dit, tu es en train de monter maman. Oui, bien sûr, parce qu'elle vous connaît. Donc, elle a connu les états cycliques de la maladie. Mais. Bon, vous faites le nécessaire, vous allez voir votre médecin, vous continuez de prendre vos médicaments. Comment ça se passe ensuite? Pourquoi elle vous dit qu'elle vous bloque? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Comment ça se passe?
Elle m'a bloqué. J'ai essayé d'envoyer des messages vocaux et textos. Pas de réponse, ou alors pas de réponse pendant les fêtes, que dalle. Son mari, j'ai essayé de le contacter le 7 décembre. Il ne m'a même pas répondu depuis, même pas. Il a infirmé pourtant... au CHU en réa neuro et voilà, rien. Ensuite, mon fils est parti 3 semaines en Inde du 19 décembre, il est revenu le dimanche dernier, donc mon fils est très à l'écoute et très présent, il passe toutes les semaines me voir, et donc il était 3 semaines en Inde, donc c'est pour ça que n'ai pas pu fêter Noël avec mon fils comme l'année dernière.
Mais avant cela, vous vous entendiez bien avec votre fille, donc ce serait quand même important.
Ça a été fabuleux, c'est fusionnel, c'est passionnel avec ma fille.
Oui, alors ça, on sait que c'est pas positif non plus, hein, vous qui avez suivi une psychothérapie.
Oui, mais j'ai tellement désiré ma fille Valérie, mis 5 ans à la... Après le mariage, on a mis 5 ans à l'avoir.
Non, mais je vous entends, je l'ai tellement désiré. On est fusionnel, mais il faudrait savoir sa version à elle. Vous voyez, hein, les mamans, elles aiment bien être fusionnelles. Et je le dis avec beaucoup de... Je ris, hein, parce que je suis une maman un petit peu fusionnelle aussi, moi. Mais heureusement, j'ai une fille qui s'en défend un petit peu, vous voyez. Ce qui m'arrange évidemment pas trop. Hein, mais je pense que beaucoup de mamans vont se reconnaître. Et elle a raison, votre fille, de pas vouloir la fusion. Elle a raison, à un moment, et surtout qu'elle est devenue maman, elle aussi. Votre petite fille, elle a 2 ans à peu près, c'est ça ?
Oui, elle a 2 ans. Elle a eu 2 ans. Oui,
voilà, c'est ça. Donc
ma fille a eu 34 ans.
Voilà. Donc il est peut-être temps de couper le cordon un petit peu pour elle. Et c'est peut-être sa psy ou son psy l'incite peut-être aussi à cela. Parce que vous avez peut-être pas l'impression d'être étouffante ou d'être intrusive ou d'être
partout. Non, pas du tout. Maintenant, je fais ma vie. Attendez, pendant 34 ans, je me suis consacrée qu'à mes gosses. J'ai tout fait pour eux. Je voulais à tout prix qu'ils réussissent. Je me suis consacrée pour eux. Je suis même allée travailler le matin à 5h du matin jusqu'à 8h, le soir jusqu'à 19h. Entre-temps, heureusement que mon ex-mari m'a aidée et on a été en communion, en accord parfait pour élever les gosses. On s'en est tiré. On est allé jusqu'au bout. Ma fille est a réussi. Mon fils a réussi. Ils ont réussi tous les deux. On s'est battu pour qu'ils y arrivent ou qu'ils sont arrivés. On n'y croyait pas, parce qu'en psychiatrie, on n'autorise pas à ce que les patients élèvent des enfants. Moi, on m'a donné la chance, grâce à ma psychologue, que je nommerai pas, mais c'est grâce à elle qu'on m'a donné ma chance de lever mes enfants et de mener à bien leur éducation et leur réussite, car j'étais derrière eux et je soutenais leurs études et leur éducation et leur politesse, leur respect.
Dites-moi, Elisabeth, est-ce que son frère ne peut pas intervenir juste pour que vous sachiez pourquoi ?
Il me dit, maman, tu te démerdes, c'est vos problèmes, ça ne me regarde pas, tu te débrouilles avec elle.
Mais qu'est-ce qu'il en dit ? Quelle explication il vous donne ?
Lui, il fait sa vie, il est ingénieur, il a sa copine.
Non, mais quelle explication il vous donne sur le fait que sa sœur, pour le moment, est un peu en froid avec vous ?
Ah oui, là, il était parti 3 semaines en Inde, donc il n'est pas trop au courant, il est rentré le dimanche.
Ah oui, d'accord, c'est très court pour... Voilà, bah, il va falloir lui poser la question, peut-être un peu.
Il me dit ça y est, elle chiale, il me dit ça y est, elle pleure.
Oui.
Ça y est, elle pleure, ça y est, on est reparti. Voilà.
Moi, je crois que ça n'est que passager, Elisabeth. Vous êtes très fusionnelle, il y a beaucoup d'amour entre vous. L'amour va revenir, elle va reprendre contact. Là, elle a peut-être besoin de se retrouver dans sa vie de maman, avec son mari, et de ne pas avoir sa mère, qui, même si vous avez fait de votre vie, que vous êtes autonome et indépendante, parfois, on a des comportements, sans s'en rendre compte, un petit peu trop.
Non, je donne, Valérie. Je suis là pour donner. Je suis là.
Oui, j'entends bien. Mais encore faut-il qu'en face. Oui, mais encore faut-il qu'en face vous répondiez à un besoin. Là, c'est votre besoin de donner, mais c'est peut-être pas le sien de recevoir.
Mmh.
Vous voyez. Il faut que vous sortiez un tout petit peu de votre système.
Non, il faut que tu fasses un travail sur toi à nouveau avec une nouvelle psychiatre ou psychologue. Il faut à nouveau que tu mettes en place un travail. 8 séances à 12 séances, c'est gratuit.
Eh bien oui, elle a raison, il y a 12 séances gratuites. Faites-le, pourquoi pas, Elisabeth.
J'ai pris rendez-vous pour le 2 février. J'ai pris rendez-vous.
Ben voilà, si ça peut arranger les choses.
Oui, parce que je vais à tout prix retrouver ma petite fille, surtout car les cadeaux sont là. L'année dernière, j'étais allée amener les cadeaux le 25 au matin. Elle m'a foutu dehors. J'ai laissé les cadeaux. Elle m'a menacé d'appeler le 15, donc je suis partie. J'ai laissé les cadeaux devant sa maison.
Oui, mais est-ce qu'elle vous avait invité à venir déposer les cadeaux le 25 au matin ou vous avez choisi d'aller les déposer ? Pas pareil.
C'est moi qui avais choisi le 25
décembre. Oui, bah voyez, mais vous voyez bien que ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça qu'on fait, parce que là, vous êtes un peu intrusive. Elle, le 25 au matin, elle ne vous a pas dit « passe maman déposer les cadeaux ». Si elle avait voulu, elle vous l'aurait dit.
Ouais.
Eh oui, bah c'est ça qui ne va pas.
Je croyais être la mère Noël, voilà.
Mais oui, vous pensiez, vous pensiez.
Et là,
oui.
Tout est là dans mon entrée.
Oui, oui, vous pensiez, mais elle, ce qu'elle est en train de faire, c'est de mettre les limites. Voilà. Ah. Elle met les limites. Ouais. Parce qu'elle est devenue maman aussi. Et donc,
voilà. Peut-être qu'elle... Et elle ne veut pas répéter, d'après ce qu'elle m'a dit, elle ne veut pas répéter ce que j'ai passé, ou je ne sais pas quoi, ou...
En tous les cas, l'important, Elisabeth, c'est qu'il y a de l'amour. Et il y a de l'amour. Voilà, il y a de l'amour. Ouais. Et tant qu'il y a de l'amour, ça va se transformer. Il faut avoir confiance. Et elle a raison, votre fille. Allez travailler la fusion et la diffusion avec les 12 séances offertes.
Ouais.
Allez-y.
Par contre, moi, je pense à moi maintenant. Je défusionne de mes gosses. Je défusionne.
Non,
et
mais
je...
défusionner ne veut pas dire sortir de leur vie. Hein. Défusionner, c'est trouver la bonne place.
Ah non, mais je ne sors pas de leur vie.
Voilà,
je pourrais,
c'est ça.
Toute seule, j'ai que mes deux chiens. Heureusement que j'ai ma rue sociale. J'ai ma rue, j'ai les copines de la rue, les voisines, mais mes gosses, c'est la prunelle de mes yeux, hein. Je les laisse pas tomber.
C'est juste, trouver le juste lien, la bonne longueur de lien.
Ouais.
Mais vous voyez, vous rappellerez, vous repenserez à cette histoire du 25 au matin où vous pensez venir faire la mère Noël, mais elle, c'est pas comme ça qu'elle l'a entendu. Voilà. Hein, c'est juste ça.
Est-ce que je peux faire un cadeau aux auditeurs et à vous, Valérie, surtout à vous et à tout le monde?
Bien évidemment, allez-y.
À tous ceux qui écoutent, est-ce que c'est possible?
Bien sûr, bien sûr. C'est quoi le cadeau? On aime les cadeaux, nous, avec Laurent et Florian.
Alors, c'est un cadeau que j'ai écrit le 3 janvier, que j'ai peaufiné depuis. C'est une petite page... poétique. Est-ce que vous...
Bien sûr, on vous écoute.
Minutes,
ça dure combien de temps ça dure?
2 minutes.
Ça va. Allez-y.
Attendez, je mets mes lunettes parce qu'à 64 ans, on a besoin de lunettes.
Oui, on vous écoute, Elisabeth.
Au-dessus des ondes de ma cuisine longue, musicale et bleue, les fils de mon lampadaire, fer forgé, torsadé, noir, gorgé de poussière de toile d'araignée, mêlé aux vapeurs des fumées nicotinées, orangées et azurées, quaternaire, grasse, reste en suspension, en gravitation, en aération, en trou noir dans les sillons gravés, sculptés au centre du triangle du Bermuda rose. Se balance, se reflète dans les verres transparents, opaques, double astigmate, dans ma mémoire intacte, indigo, au tic, toc, tac. L'ostéopathe sympathique, rencontré sur les berges des vergers du Lèze, me révèle mon cortex intact devant mes deux lobes, aux dents grises étincelées, à l'influx transmetteur régulateur. La circulation électrique est tout à fait normale, tout à fait fluide, intraneuronale. Gaine de myéline, nickel à la mitochondrie qui danse, bip-bip, un bibap loula, un bébé européen à 1647 mètres d'altitude. La thérapie dans l'onde de la libre antenne, la fréquence bleue. Les stigmates convoités ad hom européennes, green, côtoient les strings remplacés par de grandes culottes noires gainées élastiquées. Ma plastique originelle, musclée, retrouvée dans le twist disque dansé à la fanfare des loustiques du pic ou au concert d'un queen ressuscité au zénith sud. Les culots de mes ampoules sous la calotte glaciaire en fonte portent à l'homme en ronde, en ressort, en retour économique vers les 1000 watts en LED rosacée. Pipeline phytologique sous les deux tilleuls enracinés depuis l'aube des temps, embaumant l'air pur en plénitude, solaire magnétique, aimant divin, Ra.
Merci beaucoup Elisabeth de ce petit cadeau. Merci beaucoup.
Voilà,
et rappelez-nous pour nous dire surtout comment ça s'est arrangé avec votre fille. S'il vous
voilà,
plaît.
Voilà.
Merci beaucoup Elisabeth.
Merci.
Très belle année, très bonne
Bisous
santé.
À tous, belle année. À vendredi le 23, je viens pour la 500e de Thomas et de Anissa.
Ah ben écoutez, Vous êtes la bienvenue.
Oui, j'aurai l'occasion de vous rencontrer, Valérie.
Alors, je ne pense pas parce que c'est le matin et moi je travaille le soir. Demain, je serai là aussi, samedi, dimanche également.
Ah, et vous ne serez pas la 500e de Thomas, il y a plein de musiciens et tout.
Je ne crois pas, parce que je travaille tout le week-end et que j'ai travaillé cette semaine également. En tout cas, profitez bien et bonne santé à vous sur 2020.
Au revoir. Toi qui as posé les yeux sur moi, toi qui me parles pour que j'aie moins froid, je te donne tout ce que j'ai.
France Gall ce soir dans votre libre antenne sur Europe 1. Viens, je t'emmène. Et puis notez, chers amis, que Sophie Davant vous donne rendez-vous tous les week-ends, samedi et dimanche, de 16h à 17h sur Europe 1, pour vous raconter les histoires d'amour extraordinaires, de personnalités ou d'anonymes. Et bien ce samedi, Sophie vous raconte l'histoire de Freddie Mercury et de Mary Austin. Les histoires d'amour extraordinaires racontées par Sophie Davant, c'est tous les week-ends, le samedi et le dimanche, de 16h à 17h sur Europe 1. Bonsoir Didier. Didier, vous m'entendez ?
Oui, très très bien.
Ah, voilà. Bonsoir.
Alors, bonsoir, et je suis ravi d'être à l'antenne.
Avec plaisir.
Je commencerai par dire une toute petite chose, c'est que pour les auditeurs très 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 fidèles, et il y en a beaucoup.
Oui. Et de plus en plus,
surtout. Je suis pensé à la libre antenne, non pas il y a 2 semaines ou 2 mois, mais 5 ans.
Très bien.
Je suis passé le 20 octobre 2020,
oui,
pour des raisons qui se rattachent profondément à l'objet de mon intervention de ce soir.
Mais comme quoi, il n'y a pas de hasard.
5 ans après, me revoilà.
Bon, il va falloir quand même nous recontextualiser tout ça, hein, parce qu'il y a 5 ans, moi, j'étais
alors,
pas là.
Oui, oui, c'était Olivier.
Voilà, exactement.
Et donc, ça va être très très vite recontextualisé. Si je suis trop bavard, il faut me ponctuer un petit peu. Hein.
Oui, 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 il n'y a pas de problème.
J'ai pris une petite note pour essayer de refaire le contexte. Et je ne veux accabler personne. Je suis moins souffrant que beaucoup d'autres et beaucoup trop par rapport à ce que j'aimerais être.
Voilà. Alors déjà, juste 2 choses. Quel âge vous avez et où habitez-vous, Didier ?
Alors, j'ai 63 ans et je suis en Île-de-France.
D'accord, très bien.
Je suis en Île-de-France et je ne peux pas être trop précis dans le sens où je vais vous parler de fonction publique.
Ah, d'accord.
Alors, moi, l'objet de mon appel, il est pour moi, mais il est pour tous ceux qui ont parcouru et qui connaissent aujourd'hui, et j'en connais plusieurs, qui ne sont pas d'ex-collègues de travail, mais de gens de mon entourage, ou des gens qui connaissent des gens, qui connaissent la maltraitance, la souffrance au travail et ses conséquences, et surtout quelque chose de très très tabou, et contre toute attente, je l'ai écrit avant de vous le lire, et contre toute attente, dans un environnement inattendu professionnel, de statut qu'on décrit un statut un peu privilégié, avec le travail, la protection du travail et du poste de travail à vie, etc. Je vous passe les clichés parce qu'il y a le cliché, mais il y a la réalité, c'est la fonction publique. Moi, je suis arrivé dans la fonction publique 7 ans avant ma retraite.
Oui.
Je suis rentré sans concours. Il y avait une opportunité de passerelle. Je suis rentré ainsi. J'ai vécu l'enfer. Ça a été abominable. En mi-mars 2020, je suis rentré en pleurs par la maltraitance professionnelle parce que je n'avais pas fait de concours, je n'étais pas légitime, etc.
C'était du harcèlement ?
Absolument. Humiliation, harcèlement, etc., dans une structure de région parisienne prestigieuse.
Homme ou femme, le harceleur ?
Équipe professionnelle, et c'était homme et femme, puisque c'est un contexte. Alors, c'était un homme, au plus près, et c'était homme et femme. C'était les deux, parce que c'est ce que j'appelle, moi, la hiérarchie ou la. Non pas pyramidal, mais ça fait un peu armée mexicaine, si vous voyez ce que je veux dire. J'avais un supérieur qui avait un supérieur qui avait un supérieur.
Oui.
Voilà. Ou une supérieure.
Et donc harcelé par le N plus 1, le N plus 2, le N plus 3.
Oui, oui, oui. Oui. Alors, quand j'étais un intervenant sur site, j'étais terriblement apprécié par les gens. Et ça s'est très, très mal passé. Je ne voulais pas m'arrêter. Parce que je savais que si je m'arrêtais, je ne pouvais pas retourner au travail.
Ah oui, vous y alliez vraiment, vous y alliez la boule au ventre, en fait, tout le temps, Didier, c'est ça ?
Ah, au point que j'ai eu un accident de travail que je n'ai jamais déclaré. J'ai plié ma voiture à 300 mètres de mon lieu de travail, ma voiture personnelle. Je n'ai jamais fait de déclaration.